VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 janvier 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Le président de la commission électorale gambienne craignant pour sa vie s'est réfugié au Sénégal.
En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle qui a signé sous réserve l'accord au dialogue de la dernière chance remet déjà en cause certains de ses passages.
Au Burundi, la plus ancienne ligue des droits de l'homme, ITK, a été définitivement radiée de la liste des ONG locales autorisées à travailler dans le pays.
Au Tchad, la rentrée scolaire n'est pas toujours effective malgré l'appel du gouvernement à une reprise des cours le 3 janvier.
En Turquie, l'auteur de l'attentat du Nouvel An à Istanbul reste introuvable malgré l'arrestation de 16 personnes dont son épouse présumée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Le président de la commission électorale indépendante gambienne, Aliou Moumar Ndiaye, s'est réfugié au Sénégal voisin par crainte pour sa sécurité, a affirmé mardi soir à l'AFP un membre de sa famille. On ignore pour le moment quand M. Ndiaye a quitté la Gambie, avec qui, tout comme la nature des menaces à son encontre.
Toujours en Gambie, l'une des trois stations de radio privées fermées par les autorités a été autorisé à revenir sur les ondes. Les deux autres sont toujours réduites au silence. Une nouvelle péripétie dans le bras de fer entre le président sortant gambien, Yahya Djamé, et l'opposant Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre. Précision de Michel Joseph.
La station Afri Radio a reçu lundi soir l'autorisation de reprendre ses activités, mais sous un encadrement strict. On nous a demandé d'arrêter tous les programmes habituels et de faire en sorte qu'aucun animateur ne soit en studio. Aucun employé n'est autorisé à parler à l'antenne, a expliqué un membre de son personnel sous couvert d'anonymat. Mardi soir, la radio ne diffusait que de la musique. Pas de changement pour les deux autres stations, Teranga FM et Hilltop Radio, qui restent fermées. Jusqu'à mardi soir, aucune explication n'avait pu être obtenue des autorités sur les motifs de ces fermetures de radio. Aucun document officiel n'a été produit pour motiver ces fermetures, a dénoncé l'ONG Reporters sans frontières, précisant que, selon des sources locales, aucune de ces radios n'avait diffusé de contenu susceptible de froisser les autorités ces derniers jours. Ces fermetures arbitraires sont extrêmement préoccupantes dans le contexte actuel de crise post-électorale en Gambie, a déclaré la rédactrice en chef de Reporters sans frontières, Virginie Dangles.
En RDC, moins d'une semaine après la signature de l'accord politique ayant sanctionné les discussions entre les acteurs politiques congolais, tous sous les auspices de l'Église catholique, la majorité présidentielle qui a signé cet accord sous réserve remet déjà en cause certains de ses passages.
Aubin Minaku, le secrétaire général de la plateforme politique du président Joseph Kabila, assure que toutes les dispositions de cet accord qui ne respectent pas la constitution et les lois congolaises sont nulles et de nul effet. On l'écoute au micro de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. La majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus. Nous y verrons. L'accord signé est une étape réussie, mais qui a une autre étape, et cette étape concerne l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Toutes les dispositions de l'accord, contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République, sont nulles et de nul effet.
Aubin Minaku, secrétaire général de la plateforme politique du président congolais.
ajoutant que mardi, la coalition au pouvoir en RDC a conditionné sa participation aux négociations sur les modalités et le calendrier d'application de l'accord de co-gestion du pays à la reconduction du mandat de la médiation des évêques par le président Joseph Kabila.
Au Tchad, la rentrée scolaire n'est pas toujours effective malgré l'appel du gouvernement à une reprise des cours le 3 janvier. Comme les autres fonctionnaires, les enseignants sont en grève depuis environ 4 mois pour réclamer le paiement des arriérés de salaire.
Ils dénoncent aussi les mesures d'austérité prises par le gouvernement qui réduisent ou suppriment carrément divers avantages. Écoutons la réaction du secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounoung Vaïma Gamfaré.
Un ministre dit « reprenez les cours », un autre ministre dit « non, c'est pas bon ». On dirait que les gens ne gèrent pas comme ils gèrent un État. Faut pas qu'ils gèrent avec passion. Ce n'est pas tromper tout le monde tous les jours qu'ils peuvent réussir. Si les étudiants vont à l'école et qu'ils n'ont pas les anciens, est-ce qu'ils savent ce qui peut arriver? Sortir comme ça pour se faire une place, pour dire « j'ai appelé les gens à travailler, j'ai appelé les anciens à faire ceci ». Non, c'est un couteau à double tranchant. Il faut que les responsables réfléchissent à ce qu'ils disent. On est dans la démocratie. Démocratie, ça veut dire discuter. Pourquoi le gouvernement ne veut pas discuter valablement avec nous? Pourquoi ils ne veulent pas prendre en considération nos propositions? On a déjà dépassé le sens de pensée unique où il n'y a que nous qui prenons la décision. Non, il faut que les gens fassent attention. Pour le moment, nous, là, on n'a pas appelé les gens à la reprise. Nous restons là.
Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounoung Vaïma Gamfaré, une autre centrale syndicale, la Confédération libre des travailleurs, a pour sa part appelé ses adhérents à reprendre le travail pour, dit-elle, sauver l'économie du pays, l'année scolaire et la vie de toute la population tchadienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, la victoire de l'homme d'affaires Jovenel Moïse à l'élection présidentielle du 20 novembre a été confirmée officiellement mardi après le rejet par le tribunal électoral des accusations de fraude. D'après la Constitution, le nouveau président devra prêter serment au plus tard le 7 février. Il succédera à Joslerm Privert qui a assumé l'intérim de la présidence depuis la fin du mandat de Michel Martelly en février 2016. Les adversaires de Jovenel Moïse ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'accepteraient jamais la victoire de Jovenel Moïse.
En Turquie, la police continue de traquer aujourd'hui l'auteur de l'attentat du Nouvel An contre une discothèque d'Istanbul. Il serait originaire d'Asie centrale, le Kyrgyzstan ou l'Ouzbékistan, où il reste introuvable malgré l'arrestation de 16 personnes, dont son épouse présumée. Les autorités ont diffusé mardi plusieurs images de l'homme soupçonné d'avoir tué 39 personnes, essentiellement des étrangers, qui célébraient le Nouvel An au Rena, une célèbre boîte de nuit de la métropole turque. Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique.
Ici aux États-Unis, les républicains contrôlent à la fois la Chambre des représentants, le Sénat et la Maison-Blanche suite aux élections du 8 novembre, une occasion rêvée pour imposer une politique conservatrice.
Hier, Paul Ryan, qui a été réélu à la tête de la Chambre des représentants lors de l'ouverture de la nouvelle législature, a déclaré que c'est une chance unique pour les républicains, mais la majorité a déjà subi un premier revers, puisqu'étant obligé de retirer un projet visant à limiter les pouvoirs du bureau d'éthique, une volte-face en moins de 24 heures.
Au micro d'Abdourahman Dia, le professeur Lorenzo Morris, politologue à l'Université Howard de Washington, explique que cet épisode montre que la bataille sera rude au Congrès américain, malgré le fait que les républicains contrôlent ces deux chambres.
C'est un peu un avant-goût, mais c'est un avant-goût de stratégie. Les diversions et ensuite le cible direct, les projets principaux. Et je crois que dorénavant, on verra des petites tentatives, des petits projets qui sont extrêmes, mais qui peuvent être retirés à côté ou juste avant des projets qui sont plus importants en domaine de politique, comme la santé, Obamacare, ou bien comme la protection des droits de vote ou dans le domaine des impôts et la taxation pour les grandes entreprises. Toutes ces questions doivent être entirées des petites et questions peut-être plus extrêmes.
Donc on s'attend à une année difficile à Washington.
Oh bien, une année difficile mais pleine de drames, pleine de controverses.
Eh bien, c'était le professeur Lorenzo Morris, politologue à l'université Howard, ici à Washington.
Et le président élu Donald Trump a annoncé mardi sur son fil Twitter qu'il tiendrait une conférence de presse le 11 janvier à New York. Le républicain qui prêtera serment le 20 janvier n'a jusqu'à présent tenu aucune conférence de presse depuis son élection le 8 novembre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, John Linden.
En RDC, la croissance devrait atteindre 2,9% cette année contre 7,7% de croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la Banque centrale. Le pays, dont 95% des revenus d'exportation proviennent des industries extractives, a subi de plein fouet la chute des cours mondiaux des minerais en 2014 et 2015, principalement dû à la baisse de la demande chinoise. Au Nigeria, le riz en plastique était en réalité du riz de contrebande. Le 21 décembre, les douanes du Nigeria avaient saisi 102 sacs de 50 kg de présumé riz en plastique destiné à être vendu à l'approche des fêtes de fin d'année à Lagos. Selon un communiqué des douanes nigérianes, des analyses ont permis d'établir que le riz incriminé n'était pas en plastique, mais plutôt contaminé par des micro-organismes.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Défection de taille pour le Cameroun à 2 semaines de la CAN au Gabon.
L'attaquant de Schalke 04, Éric-Maxime Choupo-Moting, s'est retiré de la sélection camerounaise. Selon un communiqué de son club publié hier, il ne participera donc pas à la CAN au Gabon prévue du 14 janvier au 5 février. L'Algérien Nabil Bentaleb et le Ghanéen Baba Rahman, eux, participeront bien au tournoi continental avec leurs sélections respectives, a ajouté Schalke 04. On rappelle que plusieurs joueurs camerounais figurant dans la préliste de 35 joueurs du sélectionneur Hugo Brousse ont décliné la sélection, notamment le milieu défensif de Lille, Ibrahim Amadou, et le défenseur de Liverpool, Joël Matip.
Sadio Mané, lui, sera bien à la CAN avec le Sénégal.
Oui, le meneur sénégalais de Liverpool, transféré cet été de Southampton pour 40 millions d'euros, laisse son équipe des Red Devils, deuxième de la Première Ligue. Sadio Mané a inscrit, je le rappelle, 9 buts depuis le début de la saison.
Les éléphants de Côte d'Ivoire bénéficieront d'un budget de 3,9 milliards de francs CFA pour cette CAN.
Un budget en hausse pour leur stage de préparation et leur participation à la CAN 2017 au Gabon. L'État ivoirien respectera ses engagements vis-à-vis de la Fédération de football afin que l'équipe nationale se déplace pour défendre son titre, a annoncé le ministre des Sports et Loisirs Albert-François Amika sur les ondes de la RTI. Comparé à celui de 2015, ce budget est en hausse de 400 millions de francs CFA.
Tennis, retour à la compétition réussie pour Serena Williams.
L'Américaine, numéro 2 mondial, s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi d'Auckland, qui marque son retour à la compétition après 4 mois d'absence. Serena Williams s'est imposée en 2 manches contre la Française Pauline Parmentier, 69e joueuse mondiale, le score 6-3-6-4. La dernière apparition sur les courts de l'ex-numéro 1 mondial, détentrice de 22 titres du Grand Chelem pour 71 victoires au total sur le circuit WTA, remontée à sa demi-finale perdue de l'US Open contre la Tchèque Karolina Pliskova, c'était en septembre 2016. Enfin, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota Philadelphia 91-93, Indiana Detroit 121-116, Washington Dallas 105-113, Toronto San Antonio 82-110, Sacramento Denver 120-113 et Miami Phoenix 90-99.
Dans Washington Forum ce jeudi, retour sur la situation politique en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est écrit noir sur blanc sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pouvoir et opposition vont co-gérer le pays durant la transition entre la fin du mandat de Joseph Kabila et l'élection de son successeur fin 2017. Quel chronogramme pour la mise en place de cet accord ? Cet accord et la Constitution vont-ils pouvoir fonctionner ? Quel partage du pouvoir ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, le ministre de l'Intérieur, Pascal Baranda Guillé, a radié définitivement la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, de la liste des ONG locales. M. Baranda Guillé accuse ITK de ternir l'image du pays et a semé la haine et la division au sein de la population. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Ottawa, au Canada, la présidente de la coalition de la société civile pour le monitoring électoral, Justine Kurunziza.
Personnellement, je trouve rien d'étonnant dans la décision qui a été prise par le gouvernement du Burundi, parce que la Ligue ITK est parmi les organisations qui dérangent. Parce que la Ligue ITK, depuis qu'elle avait même été suspendue, avait continué à recueillir les exactions, les violations des droits de l'homme sur terrain. Et ça énervait le gouvernement du Burundi parce qu'ils veulent tout faire en silence. Ils veulent continuer à violer les droits de l'homme, à tuer, à créer beaucoup de fausses communes à l'insu de tout le monde. Alors la Ligue ITK a beaucoup de présence sur terrain et les membres continuent à rapporter ces crimes. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est une réaction très normale pour moi, parce que le gouvernement a tendance à faire taire, comme il a fait taire les radios. Il continue à faire taire même les organisations de la société civile qui travaillent pour la défense des droits de l'homme.
Est-ce que vous pensez que cette décision va dissuader la Ligue ITK à continuer son travail?
Non. Je pense qu'on va continuer à voir les rapports parce que, comme je dis toujours, même si les bureaux sont fermés, moi je dis toujours qu'il y a d'autres bureaux de la Ligue ITK dans les cœurs de tout un chacun, de tout un défenseur des droits de l'homme. Donc tout le monde va continuer à travailler. Même les paysans, la population sur terrain, ils ont leur façon de continuer à donner les rapport d'une façon discrète et confidentielle. Donc ça va se savoir, ça va continuer à être rapporté. Parce que le gouvernement voudrait continuer à tuer, continuer à violer les droits de l'homme à l'insu de tout le monde. Donc c'est au gouvernement que ça profite, parce que ça, personne, les Nations Unies, l'Union africaine, les autres organisations qui regardent tout à la loupe, qu'ils ne vont plus avoir ce rapport, les rapports qui les chargent, les rapports qui intéressent toujours ces organisations ou même la pays.
Est-ce qu'il y a encore des organisations de la société civile crédibles sur le terrain qui continuent à vaquer à leurs activités?
Très peu, parce que si tu ne travailles pas dans le sens que veut le gouvernement, automatiquement on ferme. Donc ça sera très très difficile, et c'est difficile même aujourd'hui pour ces autres organisations de continuer à travailler. C'est juste une présence pour les organisations qui restent au pays. C'est juste une présence, mais n'osent pas vraiment faire leur travail selon leurs objectifs, selon leur volonté. Donc, le gouvernement les suit à la loupe et il les menace. Donc, tu ne peux pas aller sur terrain sans la présence des dirigeants, des administratifs locaux. Donc, ils doivent tout contrôler et tu dois tout faire selon leur orientation, quoi. Même les organisations qui sont sur terrain ne travaillent pas selon leurs objectifs, selon leur volonté, parce qu'ils doivent tout faire selon les organisations, l'orientation des administratifs de terrain.
La présidente de la coalition de la société civile pour le monitoring électoral, Justine Kurunziza, en exil à Ottawa, au Canada. Au Sénégal, l'opposition dénonce l'adoption d'une nouvelle loi qui attribue 15 sièges de députés à la diaspora, jugeant les coûts exorbitants. L'Assemblée nationale passera donc de 150 à 165 députés à partir de la prochaine législature de juillet 2017. Mais pour Mohamedou Mbodj, le coordonnateur du Forum civil, une organisation de la société civile, l'apport de la diaspora au débat politique peut enrichir la réflexion politique au Sénégal. Au micro d'Abdourahman Dia, les explications de M. Mbodj.
Pour l'opposition, une bonne partie en tout cas, il fallait choisir 10 députés dans les 150 déjà qui composent le Parlement. Donc c'est sur les modalités qu'il y a eu une petite divergence, mais pas sur le principe d'assurer la représentation de la diaspora. C'est hier, dans le vote du code électoral, qu'on a fixé un chiffre. Il y a eu 5 autres qui se sont ajoutés à cela. Donc ça, ça ne faisait pas l'objet d'une discussion. Et c'est ça peut-être qui a surpris et heurté l'opposition. C'était pas ça qui était planifié.
Et justement, cette opposition a comme argument le coût financier de ces 15 nouveaux députés qui vont venir s'ajouter, disons, au nombre de 150 que certains jugent déjà pléthoriques.
On peut le juger, on peut penser que 150 députés, 165, c'est beaucoup. Pour un pays de 13 millions d'habitants, comment on peut penser que ce qui est déterminant, c'est l'efficacité de l'institution sur les missions qui lui sont confiées. Et qu'une démocratie qui marche, qui installe une bonne gouvernance dans un pays, qui assure la stabilité politique, n'a pas de coût. On ne regardera pas sur les coûts. Donc, la question du coût, comme la question de l'apport des immigrés, ne devrait pas être un argumentaire décisif dans ce débat.
Est-ce que selon vous, cette institution est efficace aujourd'hui?
Ça fait un gros débat. Au regard même du niveau de participation politique aux élections législatives, une des plus faibles de tous les scrutins du pays, c'est l'élection des parlementaires. C'est à peu près un tiers de l'électorat qui se prononce, depuis plus de 20 ans ou plus.
Ce que veut dire quoi, selon vous?
Et une crise de légitimité de l'institution.
Le fait d'ajouter 15 députés de la diaspora, vous pensez que ça peut contribuer à légitimer un peu l'Assemblée nationale?
Moi, je retiens le principe d'une diversification de la représentation politique au Sénégal. Par des acteurs qui sont immergés dans de grandes démocraties, des fois, comme dans les dictatures en Afrique. Ce segment de l'électorat porte en lui-même la diversité des expériences de construction démocratique et de construction de systèmes de gouvernance publique efficaces ou pas efficaces du tout et très instables. De ce point de vue, leur participation dans le débat pourrait souvent attirer notre attention sur ces deux extrémités qui soit polarise notre démocratie pour la tirer en haut, ou menace notre démocratie, parce que venant de segments qui ont vécu dans des pays où l'instabilité politique a été la donne majeure.
Mohamed Doumbodj, coordonnateur du Forum Civil, une organisation de la société civile sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Perspective 2017, rétrospective 2016 sur VOA Afrique. Ce matin, le Mali et le Togo. D'abord le Mali, une meilleure vision et gestion de la question migratoire, paix et stabilité partout au Mali, création d'entreprises locales pour fournir davantage d'emplois aux jeunes. Tels sont entre autres les souhaits des Maliens pour 2017. Si certains sont optimistes, d'autres restent en revanche très pessimistes à cause de l'insécurité, du chômage et aussi du rapatriement des Maliens de l'extérieur. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
L'optimisme chez les Maliens est naturel. Malgré la difficulté du Mali, en ce début d'année 2017, certains Maliens veulent garder l'espoir.
Ramane Konaté, conseil pédagogique à la retraite. De point de vue perspective, bon, je pense que nous pouvons espérer, étant donné que nous sommes des fatalistes, nous sommes des religieux, en tout cas moi j'ai bon espoir. Le Mali doit faire face vraiment à la paix, parce que jusqu'à présent, cette histoire de paix, la négociation jusqu'ici, là, ça trébuche. Nous voyons que notre président, il est bien engagé. Sérieusement, il a vu que ce n'était pas, c'est pas une question de force.
La première grande activité de l'année 2017 au Mali, c'est le sommet Afrique-France. Il est source d'optimisme chez certains jeunes Maliens.
Moi, je suis Abdul Aziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des usines qui vont combattre un peu le chômage. Et pendant ces sommets-là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également.
Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Je suis aide bibliothécaire à la Flash. Ce sommet-là, peut-être, ça va faire des changements avec multifonctionnel de tous les chômages. Donc moi, je pense que le sommet-là, c'est très important ici au Mali. Ça va nous donner beaucoup d'avantages, surtout les jeunes.
Cet optimisme n'est pas partagé par tous les jeunes. Pour certains, ce sommet vient augmenter la difficulté du pays.
Souri Brahim Konaté, journaliste. Je ne m'attends pas à plus d'innovation. C'est vrai, le Mali recevra une rencontre internationale qui est le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs des problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même quelque part la communauté internationale. Parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les un tiers du pays.
Pour le secrétaire à la communication du parti Djama, parti de la majorité présidentielle, le régime actuel n'a pas de perspective pour les Maliens. Moriba Dabou.
Imagine, quand ils sont venus, ils ont promis 1000 emplois. Aujourd'hui, ils en ont fait 5000 chômeurs. Avec l'accord de réadmission, on a eu des parents en France qui nous ont appelés, mais qui vont être refoulés. Vous partez en Italie, il y a plus de 10 000 Maliens qui sont emprisonnés. En Espagne, ils sont plus de 23 000. Et en France, c'est plus de 25 000. Où est-ce qu'on va? Sincèrement, la meilleure façon de dire à ces gens non, c'est d'aller tout simplement voter contre les partis au pouvoir en 2018. C'est la seule solution.
L'emploi chez les jeunes peut être gage de paix avec l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue.
Moi, je me nomme Aïssata Diarra. Moi, je voudrais surtout que l'État fasse des projets pour les jeunes, pour les enfants surtout, qui sont dans la rue, qui sont orphelins, qui sont là sans famille, quoi. Et que l'État, disons, fasse un projet pour ces enfants-là.
Mon souhait le plus ardent est que la paix arrive enfin dans notre pays. Que tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit sur les papiers, que ce soit une réalité. On sait que l'emploi des jeunes ne peut pas se faire sans la paix.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Maintenant, qu'attendent les Togolais de 2017? Notre correspondante Kay Lawson s'est promenée dans les rues de leur capitale, Lomé, pour recueillir quelques-uns de leurs souhaits.
Cache Patrick, écrivain indépendant. Pour l'année 2017, je souhaite que le pouvoir d'achat du Togolais augmente. Alors, il faut que les salaires augmentent. Il faut que sur le plan social, qu'on n'ait plus à aller de grève en grève dans le secteur de l'enseignement, surtout aussi dans le secteur de la santé. Sur le plan politique, il faut qu'on aille véritablement vers une décentralisation. Il faut que les élections locales se tiennent. Il faut aussi qu'on fasse tout pour enrayer de nos habitudes la corruption et la mauvaise gouvernance.
Moi, c'est Paul Amozou.
Le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est l'émergence. Alors, ce que je souhaite pour le Togo, c'est que le Togo émerge comme nous le disons et que nous puissions également être à la hauteur des autres pays africains et pourquoi pas à l'international.
Je suis Legesim Maliki. Je souhaite un bon développement à notre pays, surtout que ceux qui boulottent déjà pour leur salaire, qu'on les augmente. Je souhaite aussi la paix et la compréhension entre les partis politiques et toute la population.
Moi, mes voeux, c'est pour que les chefs de l'État puissent avoir un esprit de justice et de vérité pour les peuples, pour que les choses puissent changer un peu, l'amélioration de vie.
Je suis Emmanuel Segadi, que 2017 soit une année de prospérité, de santé pour tous les Togolais. Et nous souhaitons également que le chef de l'État prenne à bras le corps les préoccupations de lutte contre la corruption, les préoccupations de la vie chère, les préoccupations des infrastructures hospitalières et routières, les préoccupations liées aux universitaires, parce que nous pensons que c'est la formation qui construit et qui édifie l'homme, et les préoccupations également des enseignants.
Je suis Martin Gagnon-Messambiam. Pour la nouvelle année, spécialement, je demanderai à tous les Togolais d'avoir le cœur au Togo. Et pour nos dirigeants, je leur demanderai beaucoup plus d'avoir conscience que le développement s'impose et qu'il faut des mesures conciliantes. Tous les acteurs se réunissent pour le développement du pays.
En 2007, il faut que la politique du gouvernement s'oriente vers le bien-être et l'employabilité de la jeunesse togolaise. Et surtout, tout le plan éducationnel n'a qu'à revoir leur politique. Le Togo vit sans penser à l'éducation. Pour moi, le plus important, c'est de revoir le niveau de vie des Togolais, repenser leur politique.
Missé Boupo et Do Kofi. En tant que parents d'élèves, nous souhaitons qu'on puisse trouver une solution juste et pérenne.
propos recueillis à Lomé par notre correspondante Kaylo Sonsetu pour Le Monde aujourd'hui, cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Georges Léonard Sagno pour la mise en onde et Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.